Nous sommes le 25 septembre, il est 17h30, c'est l'aérospatiale qui commence. Julie Gagné avec vous cette semaine encore, toujours un plaisir hein, de semaine en semaine de parler d'art visuel, accompagné de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, on reste pas mal dans le centre-ville de Québec pour les expositions, puisqu'on aura l'occasion de discuter avec Pierre Durette au sujet de son exposition Sédition qui est présentée à la galerie La Serre jusqu'au 30 septembre. Dominique Savoie est allée faire un tour à la grande galerie, à l'œil de poisson. Disons-le comme ça, je sais qu'elle va nous parler de Yannick Pouliot, de son exposition, de son installation, le soliloque et le diplomate. Peut-être aussi qu'elle nous parlera de l'exposition dans la petite galerie, souhaitons-le, sinon on en glissera un mot. Également, on discute avec Richard Baillargeon qui vient nous présenter Anticoste, qu'il expose à la galerie des arts visuels. Et Raymond Poirier nous fera sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Tu m'as dit que tu avais 3 mots pour condenser ta revue de presse.
Fermeture des c'est art urbain, 4 mots.
Ah, 4 mots. Bon, je pensais 3.
Malheureusement.
J'ai oublié comment compter. Donc, on en reparlera tout à l'heure, en fait, tout de suite après la chronique de Simon Roy. Bonjour, Simon. Simon ne semble pas être là pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, peut-être qu'on va aller en pause audio tout de suite. Là, j'ai déjà les suggestions qu'il nous a faites pour cette semaine. Donc, ça va être une pièce, la pièce s'appelle « La réalité se couvre ». Voilà, c'est un extrait de la pièce « La réalité se couvre ». Simon Roy, c'était une de tes suggestions cette semaine?
Oui, c'est par le Wewalt Trio, qui est en fait un quatuor. C'est donc un artiste français de Nantes-La Chapelle, dans le Pays de la Loire. Un trio qui est un quatuor, je le soupçonne d'avoir sa famille comme autre membre du groupe. Donc, il y a ses deux fils, Ézéchiel et Raphaël.
Okay.
Il y a aussi sa femme, Elsa. Donc, un album que je pourrais qualifier de chunky.
Chunky?
Oui.
C'est intriguant.
Il y a vraiment beaucoup de viande sur l'os. C'est l'album s'intitule « La nuit de la transformation ». Puis, ça va vraiment bien. Je préparais ma chronique très tôt ce matin, pendant la nuit même. Puis, c'est ça, une belle trame sonore pour accompagner la nuit. Une belle citation du poète belge Henri Michaud qui venait avec l'album, qui disait « La nuit n'est pas comme le jour, elle a beaucoup de souplesse ». Donc, c'est assez évocateur. Ça dit assez bien ce que l'album peut être. Ça pourrait être aussi peut-être une trame sonore pour un film inquiétant. Donc, un album de nuit, je crois qu'il faut l'écouter quand le soleil se couche.
Ce qui ne serait tardé, en fait, aujourd'hui, étant donné que les journées raccourcissent.
Oui.
Allais-tu dire quelque chose?
Non, c'est ça. C'est un album parfait pour la nuit. Je pense que c'est un album d'automne.
Un album, bon, ben ça tombe bien, je pense qu'on est vraiment dans les premières journées d'automne. Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup.
Ça fait toujours plaisir.
Puis on t'écoute, c'est dimanche à 21h à
Web Music.
Excellent. Donc, on t'écoutera d'ici là. Sinon, bien entendu, on peut trouver les liens pour le téléchargement des pièces sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier qui nous a donné 4 mots pour nous mettre l'eau à la bouche. Donc, pourrais-tu te développer maintenant autour de ces mots?
Bien, le terme fermeture, en fait, faisait référence à la galerie de Zara. J'ai pas encore pris le temps de vous en parler, mais je tenais absolument à le faire, à
c'est
signaler.
C'est vrai, on a oublié d'en parler.
On a oublié d'en parler, et pourtant, c'est majeur. En fait, je pense, dans le paysage de Québec, les auditeurs qui n'étaient pas au courant se demandaient peut-être pourquoi on n'avait pas parlé jusqu'à présent de la galerie de Zara. Eh bien, voilà, c'est parce qu'elle est fermée, malheureusement. Donc, pour des raisons financières, des raisons de difficultés au niveau de réponses négatives de subventionnaires, une première en 3 ans pour la galerie. Donc, ça a amené les revenus et les argents disponibles de Zara à un niveau zéro. Donc, pour eux, la décision s'imposait, en fait, d'à tout le moins de fermer donc l'espace galerie à court ou long terme.
Oui, parce qu'il y avait eu une fermeture temporaire là, cet été. Puis
exactement. Finalement, ça s'est prolongé. En fait, le 21 août dernier, les membres de Zara ont décidé à l'unanimité, face à cette situation-là, de dissoudre tout simplement là, l'organisation. Est-ce que c'est le glad définitif ou est-ce que, selon les subventions qui pourront peut-être revenir, ça amènera une autre activité? Ça reste à voir. En fait, on peut garder espoir, on peut croiser les doigts. Parce que, à tout le moins, en fait, je pense que la présence de cette galerie-là et la programmation qu'elle nous a offerte au fil des années montrait bien qu'elle avait une place dans le panorama artistique au niveau des arts visuels à Québec. Là.
Donc, en fait, moi, j'en profite pour saluer le travail de tous les artisans de la galerie, ceux qui ont contribué à la mettre sur pied, qui l'ont fait vivre, les artistes aussi qui ont exposé là. Donc, félicitations à tout le monde. Puis, on espère que le projet pourra renaître de ses cendres ultérieurement.
Parallèlement, on parlait de décès, en fait, mort d'un spectateur engagé de la ville, pour reprendre les mots du Devoir, Melvin Charney, qui est décédé lundi. Qui était-il? Eh bien, on lui devait notamment la conception de la place Émilie Gamelin, du Jardin de sculpture du Centre canadien d'architecture. Donc, artiste quand même assez controversé à certains moments, un artiste également qui n'a jamais hésité à critiquer sa cité, à critiquer la manière dont artiste et architecte envisageait le développement de la trame urbaine. Il notamment mettait de l'avant l'importance que l'art et l'architecture soient intégrés, que la trame urbaine soit cohérente et qu'on suive aussi la manière dont les citoyens et citoyennes viennent la tisser. Donc, on ne peut pas placer de l'art, exemple, à l'intérieur de la ville sans qu'elle soit justement intimement liée avec l'environnement qu'elle occupe. Il trouvait que ce n'était pas toujours bien fait, que ce n'était pas toujours adéquatement réussi comme démarche, et donc ne se gênait pas notamment là, pour commenter et revenir sur ce type de préoccupation-là. Et donc, il s'est beaucoup affiché là, justement dans la sphère architecturale. Évidemment, il y a des ponts à faire évidents avec les arts visuels. Et d'ailleurs, un très bon article dans Le Devoir qui, justement, met en lumière un peu les contributions de Monsieur Charney au fil de sa carrière. Les liens, comme tu le disais tout à l'heure, Julie, vont être sur l'aérospatiale.wordpress.com pour lire l'article en intégral.
Voilà, donc, autre triste nouvelle.
Et maintenant, on fait un saut street art, art urbain. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, dans la mesure où ça pose une question qui est extrêmement pertinente, à mon avis. Donc, c'est en Égypte, en fait, on sait qu'il y a eu là-bas révolte, révolution, etc. Et évidemment, parmi les signes de cette révolte et de cette révolution-là, il y a eu le street art, donc des murs, notamment à la place Tahrir, qui ont été occupés par les graffiteurs, par ce groupe d'artistes-là, cette tangente d'artistes-là, parce que quand on voit les graffitis qui ont été faits, il y en a qui méritent leur place là, comme en termes d'art urbain. Là, le nom d'art urbain est parfaitement méritoire dans leur cas. Et donc, le nouveau gouvernement pouvoir a entrepris d'effacer ces graffitis-là pour redonner de meilleurs auspices, selon eux, à la place Tahrir. Et il y a des gens, des artistes, autant que des citoyens, qui disent, ben non, ces graffitis-là sont une part maintenant importante de l'histoire du pays. C'est une révolution qui sera peut-être gravée dans l'histoire. Parallèlement, on dit qu'en cachant aussi ces graffitis-là, on cache cette part de l'histoire récente et on essaie peut-être d'amener le pays ailleurs sans être attaché à cet héritage-là.
Ouais.
Alors moi, je trouve que ça sous-tend en fait toute la place justement de ce type d'expression urbaine et de la place qu'elle peut avoir dans les débats sociaux. Et donc, quand dans des situations comme ça, mais est-ce que justement on devrait le préserver en tant qu'un patrimoine actuel, en tant qu'un art actuel?
Qu'image de la voix du peuple aussi. Là,
voilà.
C'est comme d'effacer ces œuvres-là, c'est comme d'effacer ce que les gens ont pu dire.
Alors, des questions assez intéressantes, si on peut dire, autour de ça.
Donc, on suit le dossier.
Effectivement, on les suit toujours, les dossiers, oui. Julie. Et en terminant, deux petites vites. Premièrement, la Joconde a une sœur, donc c'est presque officiel. Selon des experts de la Fondation Mona Lisa, le peintre italien Léonard de Vinci a réalisé donc deux tableaux de la Joconde. Celui qu'on connaît et un autre qui aurait été un peu une préparation à celui qu'on connaît, qui a été fait une dizaine d'années auparavant. Donc, c'est pas le même tableau, c'est pas identique, mais c'est essentiellement le même sujet, donc la même personne qui se retrouve sur cette toile-là, ce qui amène donc les gens à s'y intéresser énormément parce que pour diverses raisons, dont certaines m'échappent, il y a vraiment un mystère complet autour de la Joconde et donc c'est aussi l'étude annuelle ou l'étude saisonnière dont on fait mention ici à l'aérospatiale sur la Joconde.
C'est pas la première fois qu'on parle de Léonard de Vinci à tout le moins. Là, on voit qu'il fait toujours couler autant d'encre.
Et dernière nouvelle, celle-là, je la trouvais très drôle. En fait, au fil de l'été, un peu avant qu'on rentre en onde ici à CKRL, eh ben, il y avait eu ce scandale et cette suite assez d'un drôle pathétique autour d'un Christ en Espagne qui aurait été, disons, restauré entre très, très gros guillemets, de manière parfaitement ridicule.
Ah oui, c'est, mon Dieu, c'est la pire restauration que j'ai vue.
Et là, je suis tombé dans le Figaro sur une sortie de la dame qui a fait cette restauration-là, Cecilia Jiménez, qui dit maintenant, mais regardez, moi j'ai fait le travail, je veux être payé pour le faire. Et donc, il a pris des avocats et qui poursuit l'État en disant, ben, je veux une rémunération pour mon travail. Et là, les gens qui disent, ben non, au contraire, nous, on voudrait défaire votre travail et essayer de remettre l'œuvre dans l'État où elle était avant que vous passiez. Et là, parallèlement, ben, il y a une controverse à savoir, est-ce que il faut enlever le travail de cette dame ou au contraire, le conserver? Alors, ça se poursuit en Espagne. Là, que faire avec ce Christ-là et devrait-on payer la dame qui a gâché le travail d'un artiste d'il y a quelques centaines d'années?
Eh bien, dossier à suivre encore. Et quand même, la dame, je dirais pas qu'elle était frottée, là, mais en tout cas, on se réserve un jugement. Mais Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On se revoit dans une semaine. On s'en va en pause audio. On écoute Les choses deviennent questionnement. Au retour, on discute avec Richard Baillargeon. Toujours à l'aérospatiale, on vient d'entendre un extrait de La nuit de la transformation, un album de Waywalt Trio, une formation équatoire en fait, de Nantes. C'était une suggestion de Simon Roy. On revient au Québec, en fait, on va se transporter sur un territoire connu et méconnu du Québec, qui est l'île d'Anticosti, avec nous pour parler de l'exposition Anticoste. Richard Baillargeon, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Et moi, je pose la question de base, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur l'île d'Anticosti, de faire ce projet-là?
Je pense que ça... Bon, c'est une idée qui vient de plusieurs années et qui correspond peut-être à volonté de m'intéresser peut-être davantage au territoire du Québec. Mon travail artistique s'est beaucoup intéressé à la question du voyage, à la question de l'ailleurs.
Ouais.
Et j'avais envie de faire quelque chose qui était un petit peu plus rapproché. Et assez paradoxalement, si on peut dire, l'île d'Anticosti, c'est ici, mais c'est comme une espèce d'ailleurs aussi.
C'est un là-bas qu'on connaît
ouais,
pas. Oui,
c'est ça. C'est ça. Alors, c'est un peu ça. L'idée de l'île m'intéresse aussi beaucoup, cette notion d'île ou ce concept d'île, c'est-à-dire d'une terre qui est circonscrite et qui est relativement isolée aussi. Alors, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Mon travail s'est beaucoup aussi intéressé à la question du paysage. Donc, la nature, le lien avec, comme je disais tout à l'heure, la question du territoire, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et je m'y suis rendu une première fois en 2004, un peu sans penser nécessairement à réaliser un travail, mais j'y avais quand même photographié passablement. J'étais revenu avec passablement de documents et aussi très interloqué par le fait que si on dit que l'île d'Anticosti c'est un paradis, si on veut, pour la chasse
ben
et la
ouais,
pêche.
Ben oui, c'est à ça qu'on pense, hein? Là, au pétrole maintenant. Ouais. Là.
Eh bien, c'est aussi qu'on connaît mal ce territoire qui, au fil des, je dirais, de l'histoire du Québec, a connu plusieurs vagues d'occupation.
Ah oui, c'est ça.
Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce qui m'a aussi beaucoup intéressé par la suite. C'est au retour de ce premier voyage, ben, je suis entré dans une phase de recherche et puis d'essayer de non seulement de trouver des documents écrits, parce qu'il y en a passablement qui a été fait, surtout au 19e siècle, mais je me suis aussi beaucoup intéressé à l'iconographie. Qu'est-ce qu'il y avait comme image? Comment on avait représenté, si on veut, l'île d'Anticosti au fil du temps? Alors, c'est un peu la genèse, et puis dernièrement, disons, à l'occasion d'un projet de recherche, parce que je suis professeur à l'Université Mais Laval, oui. Et j'ai profité d'une subvention de recherche pour aller plus précisément interroger, si on veut, ce matériel à la fois historique, iconographique et confronter, si on veut, ma vision des choses et celles qui existaient, disons, antérieurement.
Puis c'est ce que vous faites, en fait, dans l'exposition, là, parce que là, il y a de vos photos, il oui. y a des documents d'archives oui. aussi, des oui. cartes, il y a oui. des objets.
Oui.
Donc, c'est vraiment plusieurs éléments qui viennent faire, comme vous parlez beaucoup de narration, je pense, dans le texte, là, ce qui accompagne oui. L'exposition, vous faites comme une narration à plusieurs voix aussi oui. autour de ça.
Oui, c'est une chose qui m'a intéressé aussi beaucoup, essayer de donner, non seulement à voir, mais donner comme un peu aussi à explorer certaines pistes, certains récits autour de l'île. Mentionner aussi peut-être que dans l'exposition, on retrouve aussi un iPad.
Oui, au centre, comme, hein, le prolongement plus numérique ou web.
Voilà. Et c'était pour moi une façon aussi de permettre de donner à l'exposition une sorte de prolongement qui est à la fois visuel, à la fois virtuel, je dirais, mais qui permettait aussi de mettre passablement plus d'images, si on veut, à la disponibilité
des regards. Oui, pour pas saturer non plus là, l'espace.
Exactement.
Puis ça permet de continuer également la réflexion, de continuer cette narration-là, de l'explorer aussi.
Ben, je pense, enfin, je suis peut-être mauvais juge, mais je pense que ce prolongement-là, j'appelais ça à l'époque prolongement web, c'est-à-dire ouais. permettre donc à notre intérêt, notre curiosité d'aller plus avant, si on veut, dans ces récits autour de l'île d'Anticosti.
Oui, il y a quelque chose qui m'a fascinée dans l'exposition. Bon, sur vos photos, on voit bien la magnificence hein, des paysages,
ouais.
mais il y a une photographie en particulier, j'en ai oublié le titre, on a l'impression qu'en premier plan, il y a comme une grosse laitue ou une grosse plante.
Ouais.
En arrière-plan, un bâtiment en ruine. Ouais. J'ai beaucoup aimé cette image-là uh-huh. qui est celle comme de feu, la présence humaine,
oui,
et de la nature en même temps, mais oui, sur la photo, sont, oui, à la même échelle.
Oui.
C'est enfin, important de confronter ça?
Ben, je pense confronter. Que oui. En fait, quand je suis retourné la deuxième fois faire des photos, j'avais dans l'idée de m'intéresser au paysage, vraiment le paysage, mais ce paysage qui porte des marques d'occupation, qui renvoie à des pans de l'histoire, etc. Et la photo dont vous faites état, c'est en fait, en premier plan, ce qu'on voit, c'est un plan de rhubarbe.
OK, c'est de la rhubarbe, c'est ça.
C'est de la rhubarbe. C'est un plan de rhubarbe, et ce qui est assez étonnant, derrière, il y a comme un toit écroulé qui a à peu près la même forme que, ouais, le plan de rhubarbe. C'est comme une espèce de pyramide, si on peut dire. Et ce qui m'a intéressé, enfin, ce que je trouvais assez particulier dans cette découverte-là, si on peut dire, c'est que je suis allé sur un site d'un ancien village de l'île d'Anticosti, un village qui a été utilisé, qui a été développé par des pêcheurs terre-neuviens à la fin du 19e siècle, ou on pourrait dire plutôt au milieu du 19e siècle, et qui a été désaffecté suite à l'occupation de l'île par Henri Monnier. Et
okay,
c'était vraiment comme étonnant d'arriver dans ce site où il y a à peu près plus rien, si on peut dire. Un toit écroulé, quelques traces, un petit chemin, et puis de trouver ce très magnifique plan de rhubarbe.
Ben ouais.
Et là, je sais pas, c'est l'occasion, puis la réponse photographique, ça a été de trouver un angle qui faisait que on pouvait retrouver ce plan comme vraiment au premier plan.
Ben
et puis
ouais,
derrière, il y a quelque chose qui s'amène aussi, qui laisse penser qu'il y a quelque chose d'un peu étrange là.
C'est ça, hein, parce que j'avais pas remarqué que c'était un plan de rhubarbe, j'avais pas remarqué les feuilles, mais la question, est-ce que c'est un plan de rhubarbe qui a été planté? Si oui, ça veut dire que lui a comme perduré, mais la trace humaine, elle, est en train de s'effondrer carrément.
Tout à fait, parce que c'est assez étonnant. Je suis revenu de là parce que je savais que ce lieu-là avait été abandonné. Les dernières occupations qui avaient été faites, c'était autour des années 1940. Il y avait eu un poste de télégraphe qui était là. Et là, je me disais, un plan de rhubarbe, est-ce que c'est possible qu'un plan de rhubarbe subsiste dans le temps aussi longtemps? Puis en faisant une recherche par après, j'ai constaté, ou enfin on sait, que plein de rhubarbe peut se reproduire lui-même pendant des dizaines,
ouais, ouais,
des dizaines d'années. Alors c'est assez étonnant de voir, hein, c'est la nature, c'est une nature qu'on a amenée, c'est une nature domestiquée.
Ouais, c'est comme un artefact.
Exactement. Et je trouvais ça vraiment intéressant, cette espèce de rencontre un peu étrange où il y a le temps qui se télescope, puis il y a notre présence, etc. En tout cas, ça faisait quelque chose qui était assez...
éloquent,
oui,
ou inspirant,
oui,
aussi.
Oui,
là,
tout à fait.
Puis en même temps, c'est dans votre texte de présentation encore, vous avez écrit,
oui,
un assez long texte, assez bien étoffé. Vous parlez aussi de cette idée de carrefour.
Oui.
Je trouve,
oui,
que ça semble illustrer aussi cette idée,
oui,
de carrefour qui vous animait dans votre réflexion.
Oui. Ben, j'étais un peu, vraiment, on le disait un peu tout à l'heure, pour moi, c'est cette idée de rencontre. L'île d'Anticosti, c'est la rencontre de la nature et de la culture, si on peut dire. Et ça, pour moi, c'est une idée très importante et qui permet aussi, peut-être, de donner à ce territoire-là, hein, on parle beaucoup de l'île d'Anticosti présentement,
ouais,
le pétrole, tout ça.
On s'enflamme, hein, un peu.
Oui, 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 justement. Et puis, on a un peu l'impression que c'est une terre complètement déserte, qu'on peut y faire ce qu'on veut, il y a des chevreuils, et puis
ouais,
on va juste pousser les chevreuils. Et ça, c'est une chose aussi que j'ai constaté qui m'a un peu aussi beaucoup, je dirais, questionner, c'est comment ce territoire qui est riche, hein, on va dire riche à plein de plans, mais au plan de l'histoire, il y a une richesse là, et il y a tout un patrimoine qui a été laissé à, ouais. à, littéralement à l'abandon. Hein? L'île d'Anticosti, il y a eu des phares qui ont été très importants au moment de la navigation où, sur le Saint-Laurent, se faisait beaucoup avec les bateaux, tout ça. Ouais. C'est des structures magnifiques qui ont été soit dynamitées à une époque ou encore laissées complètement à l'abandon. Et puis là, on est comme à se dire, est-ce que c'est nous qu'on regarde qui se trouve à avancer et à négliger ce qui est du domaine du patrimoine? Alors, on parle beaucoup de patrimoine matériel et immatériel. Ouais. Et je me disais à un moment donné, je pense que ce qui reste de l'île d'Anticosti, c'est essentiellement une sorte de patrimoine immatériel. Parce que on n'a pas voulu ou on n'a pas eu les moyens ou je sais pas trop quoi.
On n'a pas jugé important.
On n'a pas jugé important. Alors qu'à d'autres endroits, etc. Et cette richesse-là, moi, que je considère que tout ce patrimoine immatériel et même matériel autour de l'île d'Anticosti demande à être, en tout cas, à refaire surface, surtout ouais. au moment où on s'apprête peut-être à y faire des travaux d'exploration, puis peut-être d'exploitation. On n'est pas sûr des intentions des uns et des autres. Les gouvernements sont un peu tièdes, presque, ouais. hein, ou certaines factions sont peut-être plus définies et orientées progrès, etc. Alors, on ne sait pas trop. Et si mon travail peut servir un peu à dire, ouais, ben il n'y a pas que des chevreuils et que des épinettes noires, ben il y a aussi
un pan de notre histoire.
Tout un pan de notre histoire, un grand, vaste pan de notre histoire qui se reflète dans cette île.
Eh bien, Richard Baillargeon, c'est tout le temps qu'on a. Ben merci beaucoup.
Je vous remercie.
Anticosti est présenté à la Galerie des Arts Visuels. C'est jusqu'au 14 octobre. Allez-y, ça vaut la peine. L'exposition est bien documentée également. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Dominique Savoie.
Tout ce qui tombe, 3 décennies, 4 histoires d'amour, 6 destinées qui s'entremêlent. Tout ce qui tombe, un texte de Véronique Côté dans une mise en scène de Frédéric Dubois. Une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre des Fonds de Tiroir, présentée par Hydro-Québec. Tout ce qui tombe, à l'affiche du Théâtre du Trident jusqu'au 6 octobre, information 641-8131 ou letrident.com.
Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'Internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander quoi de plus?
Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre.
L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu.
Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard.
Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.
La 22e édition des rendez-vous Estrade du 4 au 8 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la France, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Réveillon, Didier Laloy, Arba des Tormes, Les Folkloristes, Barbeau, Olivier Soucy et bien d'autres.
Que faites-vous, fillette? Que faites-vous, sultan de bois?
Les rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com.
Vous écoutez CKRL 89.1, Québec.
Eh bien, il est 18h précisément, on entame cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale. Julie Gagné toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac. Je le répète, hein, si vous voulez réécouter des parties d'émission, l'émission au complet, pourquoi pas, hein, si ce fut un réel plaisir et vous avez la motivation de la réécouter, que vous voulez aller télécharger la musique que nous propose Simon Roy ou lire les articles de Raymond Poirier, vous pouvez aller sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Sur ça, je me tourne vers Dominique Savoie pour sa première chronique de la saison. Bonjour Dominique.
Salut.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Oui, t'es allée à l'œil de poisson. En fait, je t'ai donné un petit mandat.
Ouais. Ben, en fait, c'était un mandat qui me faisait vraiment plaisir. J'étais certaine que quelqu'un avait déjà parlé de cette exposition-là.
On aurait bien voulu, mais elle avait commencé avec une semaine de retard. Puis d'ailleurs, j'en profite pour mentionner que la galerie est ouverte là 7 jours sur 7, exceptionnellement, je pense, pour cette
pour
exposition.
Pour rattraper, en fait.
Pour rattraper. Donc voilà, si un lundi après-midi, vous l'allez... d'avoir, allez-y, gâtez-vous, c'est rare.
Et ça vaut la peine. Donc oui, en fait, je vais vous parler surtout de l'exposition qui est présente dans la Grande Galerie, l'exposition Le Soliloque et le Diplomate de Yannick Pouliot. Puis je vais un petit peu quand même aborder celle de la petite galerie, donc la Politiscothèque de Maxime Galland.
Coup de cœur hein, quand même.
Oui, coup de cœur. Mais revenons à nos moutons. Yannick Pouliot, je trouve que ils ont eu un bon coup d'envoi pour leur saison 2012-2013 en choisissant un artiste qui est déjà bien établi dans le réseau des arts visuels au Québec.
Effectivement.
Yannick Pouliot quand même se fait connaître depuis presque une dizaine d'années. Une dizaine d'années, on pourrait dire carrément. C'est un artiste qui est très bien connu pour ses ambiances très baroques. C'est un artiste en art visuel. En fait, c'est quelqu'un qui étudie en art visuel, mais qui a fait une spécialité ensuite en ébénisterie et en recouvrement de meubles également. Donc, ça paraît, là. Ça se voit très bien dans son travail. Puis, quand on pense à Yannick Pouliot, il y a quelques mots qui nous viennent en tête immédiatement. Entre autres, impeccable rigueur un savoir-faire impressionnant.
Ouais.
Donc, première chose, en fait, pour parler de cette œuvre installative, c'est que dès qu'on entre, en fait, dans la galerie, dans l'œil de poisson, on n'est même pas encore rendu à l'œuvre, la première chose qui envahit, c'est carrément la musique choisie par l'artiste, une musique très baroque, qui, je crois avoir reconnu peut-être que c'est le Printemps de Vivaldi, mais je pourrais pas mettre ma main dans le feu. Là.
Non, mais non plus, j'étais pas sûre.
Moi, il y a personne qui a pu me le confirmer, mais en tout cas,
mais ça ressemblait
mon impression,
beaucoup à Vivaldi.
Ouais, ça aurait beaucoup de bon sens puisque Vivaldi étant un compositeur baroque et qui s'accorderait très bien avec l'œuvre qu'on voit. Donc, on rentre dans la galerie, on entend cette musique-là qui est en boucle et qui nous assomme dès le départ puisque au début, on trouve ça bien, bien beau, mais à la fin, on est comme écœuré.
Un peu étourdi, là.
Aliéné, on pourrait même dire. Donc, on arrive dans la grande galerie et là, une immense structure circulaire se présente qui, en fait, se trouve à être une pièce circulaire. On entre dans cette pièce-là. Et là, c'est là que la magie de Yannick Pouliot se présente à nos yeux. Première chose, donc, on constate cette grande pièce circulaire-là qui a été construite de A à Z par Yannick Pouliot. Donc, avec des caissons et des tapisseries de brocart ornées d'arabesques. Et au centre, on a ce meuble qui est
ce
typique.
Meuble, hein, c'est ça.
Ouais, on va dire un meuble, mais c'est pas tout à fait un meuble. Ça devient un meuble sculptural puisque la particularité des meubles de Yannick Pouliot, c'est que ce sont des meubles inutilisables, donc qui perdent leur fonction initiale. Et là, ici, c'est une espèce de forme étoilée constituée de 32 chaises. 32 chaises de style, disons, Louis XV, Louis XVI.
Ouais, là, tu sais, très près du rococo.
Oui, oui, on
là,
est vraiment
avec des
dans
assises
le...
très rembourrées.
Exactement. Puis... On est dans le 18e siècle, là, flamboyant.
Ouais,
en
ouais.
fait, c'est une caractéristique aussi très présente dans l'œuvre globale de Yannick Pouliot. Et ces 32 chaises chaises, puisque je les ai comptées. J'ai pris la peine de les compter, en fait.
Toi aussi, tu fais preuve de rigueur.
Ouais. Ben là, surtout avec une œuvre comme ça, il faut faire preuve de rigueur. Faut, en fait, rendre hommage à l'artiste. Et donc, ces chaises-là sont liées, en fait, par leur dossier qui se prolonge d'une chaise à l'autre et qui crée cette étoile à 8 branches très régulière qui crée donc cette espèce de meuble sculptural
complètement inutilisable,
impossible, en fait, qui devient juste une grande décoration de pièces. Et c'est là qu'on perçoit, en fait, tout le savoir-faire, la technique hyper bien maîtrisée de Yannick Pouliot. En fait, là, on voit vraiment là les meubles, c'est lui qui les fait, c'est lui qui les rembourre. On fait un retour aussi avec cette bourrure et ce recouvrement de meubles qui répète, en fait, la tapisserie de brocart des murs. Et ça crée cette immense forme étoilée qui prend presque la totalité de la pièce. Et au-dessus de ce meuble entre gros guillemets, un immense, puis là j'appuie sur immense lustre qui vraiment vient en fait presque voler le show à cette structure mobilière, on va dire, qui est juste en dessous du meuble. Et là, en tant que spectateur officiellement, quand on arrive là-dedans, on se sent tout de suite impressionné. On a un petit sourire parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour là, dans cette...
Moi, en tout cas, j'ai eu la réaction de... J'ai utilisé un terme que je dirais pas à la radio, là, mais comme une surprise vraiment amusée quand
c'est
je suis entrée.
Ça. Puis, mais en même temps, t'es comme stupéfait. Hein? Cette opulence, cette lourdeur de luxe extrême.
C'est démesuré.
Et les proportions aussi, là, on doit le dire, là, le meuble, on va l'appeler comme ça.
Oui, appelons-le même.
Le meuble et le lustre qui est tellement imposant. Ben là, t'arrives là-dedans, d'abord tu ris, t'es impressionné, puis à un moment donné, t'es juste comme... envahi de tout ça, une espèce d'impression d'étrangeté, puis tu sais, j'irais même jusqu'à dire écrasement, parce qu'on peut pas bouger ben dans cette...
Mais non, parce que la pièce est vraiment petite, en fait. Là, ça, ces lustres-là, puis tu sais, des grosses structures comme celle-là, on voit ça dans une grande, grande pièce, mais là, c'est à peine si on peut faire le tour, en fait.
On peut carrément pas faire le tour, en tout cas, à moins de vraiment se rentrer le ventre, puis de vouloir traîner à quatre pattes, là, mais c'est vraiment pratiquement impossible de faire le tour. Puis, par respect, sinon, on touche à l'œuvre automatiquement. Là. Puis, moi, j'ai pas tendance à vouloir toucher tant que ça,
mais
quoique là,
surtout
la curiosité était vraiment très forte, là, parce que c'est tellement bien exécuté. Mais c'est ça, cette espèce de pièce ronde, ce surplus de luxe et de richesse, cette trop grande technique accomplie, l'espèce de gros lustre qui est très imposant, qui est assez bas quand même, très lumineux, qui nous aveugle.
Ben ouais.
En plus du meuble qui envahit toute la totalité ou presque de l'espace, et la musique qui est très présente et quand même assez forte, mais là on est comme fouf, on a besoin d'air, là, on reste pas là une demi-heure.
C'est une espèce de cage dorée là,
ouais, exactement. Ouais, mais d'ailleurs c'est drôle parce que la cage revient souvent, hein, dans son œuvre. Il avait fait auparavant l'œuvre Le Courtisan, qui était une petite pièce fermée dans laquelle il fallait entrer, fermer la porte, et là à ce moment-là la lumière, la musique partait. Une autre pièce qu'il avait faite qui était La Volière, qui était carrément une cage en fait musicale, encore une fois avec ambiance musicale. Donc c'est quelque chose qui revient souvent dans son travail, et cette justement là, ce grand savoir-faire technique et ce goût pour vraiment les époques d'autrefois, le 18e, parfois un peu de 19e siècle, qui est style empire en fait, là, qui revient. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans son œuvre en général.
Est-ce que tu t'es attardée au titre, toi?
Le soliloque et le diplomate. Ben oui, je me suis attardée, mais j'avoue que l'œuvre en soi est tellement imposante que tu sais, c'est par après que tu réfléchis au titre.
Ben là, c'est ça, moi aussi, parce que j'ai regardé, j'ai ressenti, j'ai analysé tout ça, puis après ça, j'ai repensé au titre, je me suis dit soliloquer, c'est comme
se parler à soi-même. Hein? Puis le diplomate, ben moi, je le perçois comme c'est quelqu'un qui doit parler avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'habileté, avec beaucoup de stratégie pour réussir à communiquer, des fois même négocier quelque chose. Puis je me disais, dans ce contexte-là d'une pièce, ben c'est sûr que se parler à soi-même, parce qu'il y a juste la place pour une personne dans une pièce comme ça.
Ouais.
Mais en même temps, c'est le genre de pièce, tu sais, où est-ce que à l'époque, disons, les grands salons se faisaient souvent les plus grandes, les grands échanges,
les discussions, les mots d'esprit.
Exactement.
Aussi,
donc, on dit souvent, en fait, j'avais lu dans un autre ouvrage parlant de Yannick Pouliot qu'il était vraiment quelqu'un qui faisait des calembours visuels. Ben, on est vraiment dans cette dynamique-là. Là. Puis, donc, c'est à voir. Là, c'est, ouais. On peut pas manquer ça. C'est vraiment une œuvre impressionnante là, à ne pas manquer.
Puis, tant qu'à être là, on va voir dans la petite galerie.
C'est sûr.
Hein?
Puis là, ça, surtout qu'elle n'est pas invitante en partant parce qu'il y a un grand rideau de velours noir qui cache la petite galerie. En fait, Maxime Galland, c'est un artiste qui commence, là, qui est vraiment émergent, et il propose en fait une installation visuelle et sonore. Visuelle puisque ce sont des discours politiques québécois, des plus grands politiciens.
Très récent,
c'est
aussi,
ça.
Là.
Michel Chartrand, Jean Charest, René Lévesque, on a du Lucien Bouchard, on a du...
Et Pauline Marois.
Pauline Marois
aussi.
Donc là, je pourrais pas toutes les nommer.
Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Et on les voit écrits sur les murs, puis on les entend. Mais de la façon qu'on les entend, c'est là que tout le plaisir
ben
entre.
Ouais.
C'est que le spectateur devient le DJ. Donc, on a
une console
avec des boutons. Puis là, on doit appuyer sur des boutons et...
on peut faire du mixage.
On peut faire du mixage et une à la fois, ces citations-là apparaissent et jouent et se mixent ensemble. Puis là, ça fait comme une composition musicale, mais vraiment amusante. Là. Moi, j'étais carrément en train de danser là, dans
moi
la
aussi,
pièce.
Moi aussi, j'étais en train de danser. J'étais contente que le rideau soit fermé.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'étais allée avec une amie, on était juste nous deux. Là, mais je me dis, si la salle est pleine, tu sais, on peut pas avoir l'occasion de chacun notre tour jouer ben comme ouais. on veut sur les boutons. Là, j'étais toute seule avec mon amie. On s'est vraiment amusé. On s'en est donné vraiment là, à fond la caisse, ça vaut la peine, c'est super drôle, c'est vraiment entraînant. Là. C'est une œuvre qui réussit. Puis c'est pas une œuvre qui d'habitude me plaît, vient me chercher nécessairement ce genre d'installation-là, sonore, visuelle, mais là, vraiment... Là,
c'est trop ludique.
C'est
là.
Très ludique, puis c'est très approprié, puisque effectivement, on est dans une ère, là, justement, là, un moment où la politique est très importante. On parle beaucoup de politique avec les changements, justement, gouvernementaux, puis ça a un bon écho par rapport à l'œuvre de Yannick Pouliot.
Eh bien, voilà, Dominique Savoie, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Puis on te revoit dans plus ou moins un mois.
Exactement.
On s'en va en pause audio. On écoute La nuit de la transformation sur les ondes de CKRL. Voilà, on vient d'entendre un extrait de La nuit de la transformation. C'était une pièce de Wewalt Trio, ce quatuor français dont nous parlait Simon Roy en tout début d'émission. Je me tourne maintenant vers la galerie Lacerte où Pierre Durette expose Sédition. Avec nous pour en parler, l'artiste lui-même. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Sédition, en fait, c'est une exposition qui présente ta plus récente production.
Oui, exactement.
Pierre, tu travailles par série, plus spécifiquement. Hein, dans l'exposition, on peut voir Propagation, Contingent et Omni. Qu'est-ce qui t'amène à travailler par série comme ça, plutôt que par tableau plus individuel?
Ah, c'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Je pense que c'est venu comme ça durant ma pratique. Là. J'ai commencé... Il y a peut-être l'idée, mais j'ai une grande base... j'ai étudié en art d'impression surtout. Fait que peut-être l'idée du multiple a toujours resté ancrée en moi, en fait, là, de voir là, c'est pas des tableaux identiques, mais peut-être l'idée de regrouper une édition, justement, peut-être imprégnée. Parce que je sais que dans ma pratique, il y a beaucoup d'accumulations là, qui rapportent peut-être aux idées d'impression. Fait que peut-être ça aussi, ça en fait partie.
Dans l'exposition, quand on arrive, tout de suite, ce qu'on voit, les premières œuvres à droite de l'entrée, c'est des œuvres de la série Propagation, sur laquelle je crois que tu travailles quand même depuis un certain temps. Tu traites beaucoup de batailles hein, dans cette série-là. Qu'est-ce qui t'amène à ce type de sujet-là?
Qu'est-ce qui m'amène? C'est de la bataille, mais c'est plutôt aussi le qu'est-ce qui me fascine, c'est l'accumulation. Puis les connaissances qu'on a acquises au niveau des civilisations là, depuis le début de l'humanité. Puis avec un jeu de superposition, un peu comme si on regardait une encyclopédie à grande vitesse, puis on regardait juste, on gardait en mémoire quelques images, comme des pop-up, là, tu sais, c'est ça que je veux faire en fait. Là. Moi, je veux pas nécessairement parler de bagarre autant que de parler de connaissances, d'accumulation de personnages qui fait un brouillage là, peut-être temporel, puis que là, il y a autant des images en plus gros qui nous apparaissent comme des automobiles de notre ère, comparativement à des biplans là, d'un autre siècle.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment des images, on peut voir l'Antiquité, le Moyen-Âge aussi, dans tout ça, donc tout est un peu mêlé, tout comme les personnages aussi, des personnages qui sont dessinés hein, à l'encre, sur des couches d'acrylique. Comment en es-tu venu à développer cette technique-là, justement, parce que moi, je regarde ça, je me dis, tabarouette, il y en a de la couche d'acrylique, là. Qu'est-ce qui t'a amené à cette technique-là?
Ça faisait longtemps que je recherchais, parce que comme que je disais, j'ai une base en impression, j'ai toujours travaillé sur le papier, puis la couleur, puis la texture du papier est assez fascinante. Puis après, retomber à la peinture sur du blanc acrylique, moi je trouvais que c'était un petit peu rough, là, il manquait quelque chose, puis ça faisait longtemps que je chérissais l'idée de travailler une texture qui ressemblerait au départ, là, qui ressemblait plus un peu à de la porcelaine par le côté vitrifié. Puis c'est dans le cadre de quand j'ai été à Pan Peinture à Québec, un événement de peinture en 2010.
Oui, c'est ça, il y a 2 ans, là, presque exactement. Oui,
c'est ça. Fait que en 2010, j'ai commencé ça, j'ai travaillé pratiquement tout ce symposium de peinture-là uniquement, quasiment sur faire mes fonds. Puis après, j'ai appliqué des lignes. C'est là qui était le début de mes personnages à la ligne, en fait. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? C'est, j'ai développé de plus en plus pour arriver, vu que c'était juste une ligne en noir. Là, présentement, il y en a encore à la ligne en noir, ligne noire, sauf que j'ai rajouté plusieurs autres couches, j'ai rajouté de la couleur aussi. Fait que là, ça devient pratiquement un tableau-objet au lieu que ça soit de fines couches mis successivement. Là, c'est vraiment rendu épais. Des fois, je suis obligé d'y aller par coulage. Parce que mes tableaux sont à plat parce que je mets des taches de couleur, puis des fois la couleur elle devient un peu bombée, tout ça. Puis vu que je veux que mes tableaux restent très plats, qu'on
un
voit pas.
Un fini lisse, là.
Ouais, c'est ça, puis qu'il n'y a pas de dénivellation par les couches de couleur. J'ai pas eu le choix à un moment donné de commencer à couler certaines parties pour niveler ça plus rapidement. Sinon, au rouleau, ça tenait beaucoup trop long.
Puis, en même temps, aussi, au départ, hein, c'était surtout comme noir et blanc. Là, il y a du dessin aussi à l'encre de couleur. C'est dans une volonté peut-être de renouveler un peu ton travail.
Ouais, exactement. Surtout, comme que vous l'avez dit, là, j'ai commencé ça en 2010. On est en 2012. Là, je considère que j'ai fait le tour avec tout ça. C'est ça, là, je voulais vraiment approfondir cette série-là, en faisant pas juste un tableau. Là, quand je m'arrêtais, parce que la dernière exposition, c'était l'automne dernier à Montréal, là, qui s'appelait Contingent. Là, cette année, c'est Sédition à Québec, toujours à la galerie Lacerte. Puis, c'est ça, là, c'est. Je m'arrêtais avec mes tâches, mes lignes, puis je m'arrêtais à un certain niveau. Mais là, j'ai décidé de mettre. Quand j'avais terminé mon tableau, je mets une couche de vernis blanc transparent. Puis après ça, je recommence un autre tableau. Fait que là, il y a vraiment comme deux tableaux dans un.
Ouais, c'est comme dans des palimpsestes aussi, là. On réécrit par-dessus, par-dessus, par-dessus.
Ben c'est ça, il y a un côté de sabotage un peu dans le travail, je crois. Là. Tu sais, mon processus quand je travaillais, c'est que je mettais souvent des plus gros éléments au départ pour structurer ça. Puis après, je vais juste mettre des personnages par-dessus qu'est-ce que je venais juste de dessiner pour qu'on le voie à peine. Puis là, après, à la fin, mon premier tableau, on le voit pratiquement plus quand on sent une présence. Puis là, j'ai été avec des lignes de couleurs, puis tout ça. Mais c'est vraiment un côté de sabotage là, dans le travail.
Puis en même temps, je veux dire, c'est un travail. Pour toi, ça doit s'inscrire dans la durée, là, quand même.
Ouais.
Ça doit être assez long.
Ouais, quand même. Ben ça, je crois que c'est pas propre à moi. Là. C'est peut-être juste par l'idée de une certaine. Des répétitions qui devient pour le spectateur qui peut-être qui rend ça plus impressionnant, mais je crois que l'ensemble autant en art visuel que dans n'importe quel travail c'est long là, quand on travaille généralement c'est rare que c'est rapide hein.
Ouais, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de la précision puis du détail, hein, parce que si on veut vraiment apprécier tes œuvres, faut quand même les regarder dans l'ensemble, s'approcher, se reculer, avancer à un autre endroit, puis sans cesse on a quelque chose à regarder qu'on n'avait pas remarqué là.
Ouais, ben c'est ce que j'apprécie en fait dans plusieurs œuvres puis dans les miennes, c'est ça que je recherche en fait, c'est de pouvoir regarder les pièces autant de proche que de loin. Et puis ça, c'est de quoi que je recherche là, autant dans la peinture qu'en sculpture, c'est de pouvoir regarder de loin comme de proche des choses.
Puis, bon, là, on a beaucoup parlé de ta manière générale, on a parlé de propagation, mais justement, tu disais qu'à l'automne, tu exposais Contingent à la CERT à Montréal. Il y a des œuvres de la série Contingent, là, tu sembles peut-être plus tourné vers, en tout cas, ce qui me semblait, de prime abord, l'Antiquité romaine ou...
Ouais, mais non, ça ressemble un peu à un amalgame de tout, en fait. Toujours, sauf que c'est sûr qu'il y a des éléments qui sont plus gros puis qui tapent
qui ressortent
plus à l'œil. Là. Mais non, c'est toujours l'idée là, d'un mix temporel, en fait. Puis ça, c'est les contingents, sont toutes verticales. C'est devenu au départ, c'est venu par des esquisses que je prenais sur du papier pour venir à faire des sculptures en porcelaine. Puis après mes esquisses, je les ai vues que je trouvais ça assez intéressant. J'ai voulu les faire en plus gros. Puis une fois que je les ai faites en plus gros, ben là, j'ai décidé vraiment de me lancer dans la sculpture qui représente ces formes-là un peu des accumulations. Là. Ouais.
Puis c'est ça, c'est intéressant que tu parles, tu disais tout à l'heure que tu avais envie que ça ait un fini de porcelaine, ton travail, que là finalement j'apprends que Contingent, tu les avais pensé un peu dans la perspective de tes sculptures. Comment pour toi ça s'opère le transfert entre le 2D et le 3D, parce que on retrouve hein, cette accumulation-là aussi dans les sculptures de Contingent?
Oui, ben ça c'est de quoi que qui est nouveau. J'ai jamais abordé la sculpture, en fait. C'est l'année passée que j'ai commencé. J'avais jamais fait ça, même durant mes études, là, de la sculpture. Et puis, c'est très différent, mais moi, c'est sur quoi que je me dirige, en fait. C'est vraiment ma prochaine production, essentiellement là, sculpturale, et il va y avoir des contingents aussi. Puis, c'est ça qui va rester, en fait, de l'expo. Là, les paysages, que ça, c'est une parenthèse. Peut-être qu'il va avoir peut-être quelques pièces ici et là qui vont réapparaître, là, parce que c'est une autre idée que j'aime bien.
Oui, c'est ça, la série des Omnis, en fait, où là, t'évacues toute la figure humaine, puis on garde uniquement le paysage.
Oui, exactement. Ben, c'est ça, ça fait différent de... Exactement. Là, les Omnis, il n'y a pas une personne, tandis que dans mes propagations, ben, il n'y a aucun paysage, sauf qu'il s'est rempli de gens. Fait que non, ça c'est... Mais qu'est-ce que je voulais travailler? C'était le vide aussi des... Dans mes personnages de propagation, c'est juste des lignes, des silhouettes de personnes. Fait que on peut voir au travers, parce qu'il y a plein d'autres personnes un par-dessus l'autre. Tandis que c'est les visions qu'on a avec Omni, c'est qui est comme un point de vue de Dieu, là, un vol aérien. C'est comme si on pourrait voir à travers des bâtisses un peu, des images militaire, là, de vision de nuit puis tout ça. C'est ça.
Ouais. Eh bien, Pierre Durette, c'est tout le temps qu'on avait. Je te remercie infiniment.
Ben,
puis ben, j'invite les auditeurs à aller visiter ton exposition qui est présentée chez la CERT jusqu'au 30 septembre. C'est Sédition. Donc, de notre côté, on s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce « Dans l'œsophage de la nuit ». Voilà, c'était vraiment un très court extrait de Dans l'œsophage de la nuit, puisque l'émission tire déjà à sa fin. Si vous voulez réécouter, télécharger, etc., comme je vous dis habituellement, vous allez sur le site l'aérospatiale.wordpress.com ou tout simplement devenir ami avec l'aérospatiale sur Facebook pour être au courant de notre actualité. En terminant, comme à l'habitude, je vous fais un peu des événements comme ça du calendrier des arts visuels. Demain, à 19h30, au Musée des beaux-arts du Québec, en préparation pour l'exposition Art et nature au Moyen-Âge, il y aura une conférence qui sera donnée par Christine Decatoire, conservatrice du patrimoine aux collections d'orfèvrerie et de textiles du Moyen-Âge au Musée de Cluny, et Béatrice de Chancel-Bardelot, médiéviste, chercheuse à l'Institut national d'histoire de l'art. Donc, pour se mettre un peu dans le bain pour cette grosse, grosse exposition qui s'en vient. Aussi, jeudi, c'est l'ouverture de la résidence de Karina Montenegro à la Chambre Blanche. Vendredi, un 5 à 7 Punch and Crunch à Avatar, où on va faire le lancement de la publication « Capturer le désordre » de Sabin Hudon. Le lancement du poste d'écoute aussi d'Avatar et la découverte de l'installation interactive des Journées de la culture. Et d'ailleurs, les Journées de la culture du 28 au 30 septembre, il y a plusieurs choses qui se passent en art visuel. Donc, journeesdelaculture.qc.ca. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Je remercie Jacques Gignac et mes invités. Et je vous laisse avec Gilles Chaumet, les Folk d'Amérique.